les œuvres des miséricordes spirituelles. Conseillez les indécis. Écoute, mon ami, dit Jésus, la leçon que je te donnerai sera très importante pour toi et pour tous ceux qui voudront l'écouter. Tu dois savoir que si les œuvres des miséricordes concernant les corps ont une importance très grande, l'importance des œuvres des miséricordes concernant l'esprit, les intelligences et les âmes n'est pas moindre. Il s'agit des œuvres auxquelles on s'applique par la prière, par les conseils éclairés et désireux du bien d'autrui. Que toujours la base et l'inspiration de ces œuvres viennent par la charité, qu'elles soient inspirées par le bien que tu désires procurer à ton frère et qui vit auprès de toi. Conseiller les indécis est l'une de ces bonnes œuvres. L'indécision dans la vie, l'incertitude et le peu de confiance en soi sont très souvent accompagnés d'une grande souffrance qui fait tout craindre, avoir peur de tout, comme si d'un moment à l'autre devaient se produire des événements désagréables. Dans ces moments d'indécision, des doutes et d'anxiété, le fait de sentir près de soi une personne pleine de bonté qui vous encourage équivaut à recevoir une aide du ciel. Cependant, fais attention. Cela ne doit pas être le désir d'imposer ta volonté à qui se sent inférieur à toi, mais le désir d'aider ton frère à voir quelle situation est la meilleure pour lui, afin qu'il sache choisir. Pour exercer cette œuvre de miséricorde spirituelle, tu dois être éclairé et instruit. C'est pourquoi te sont nécessaires le recours à Dieu dans la prière et une certaine compétence qui te vient de l'instruction religieuse et de l'approfondissement de la vérité de foi. Ne donne pas des conseils sans invoquer la lumière d'en haut et sans être mu par le désir de servir ton prochain. Vois comme il est difficile de conseiller, car si celui qui t'écoute a confiance en toi et est décidé à t'obéir, tu assumes une responsabilité. Par conséquent, ne donne pas de conseils si tu ne te sens pas sûr de toi, afin de ne pas indiquer une route que tu ne connais pas au risque de te tromper. N'aie pas la manie de conseiller. Et veille à ce que d'autres ne mettent tes paroles en pratique que dans la mesure où, les basant sur mes enseignements, tu es toi-même certain de ne pas te tromper. Le secours moral que peut recevoir celui qui sent à ses côtés une personne amie est tellement grand que très souvent il suffit à donner la paix, le réconfort et la joie, même en des situations douloureuses et difficiles. Confie-toi à moi pour cela aussi. Pèse bien tes réponses, qu'elles soient guidées par le bon sens, par une saine raison, éclairées par ma lumière. Dispense tes conseils avec douceur, qu'il n'ait jamais le ton du reproche, mais celui de la voix amie. Que l'on entende ma voix, dit Jésus, au travers de tes paroles, même si quelquefois elle résonne un peu durement, elle est cependant toujours très sincère et surtout elle est mue par l'amour et par le désir du bien des autres. Instruire les ignorants. Écoute, mon ami, dit Jésus, je te parlerai de l'œuvre des miséricordes que remplit celui qui instruit les ignorants. On m'appelait maître, le divin maître, car c'était vraiment ma mission que celle d'enseigner et d'instruire. Je parlais à toutes les catégories de personnes et à des personnes de tous les âges. Les petits enfants m'écoutaient, bouche bée, et les adultes me suivaient, oubliant leur nourriture et toute autre chose. Je m'entretenais avec les amis et les ennemis, avec les justes et les pécheurs, avec les malades et les bien portants, et à tous j'enseignais le chemin du ciel. Je suis la voie, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi ne périra jamais, disais-je. À mes apôtres, j'ai confié la charge de continuer ma mission, en disant, allez enseigner toutes les nations. Et l'Église, dépositaire de la vérité, continue cette mission par l'intermédiaire de mes ministres et instruit tous les peuples. Bienheureux ceux qui remplissent ce mandat avec foi et amour. Bienheureux sont ceux qui, après avoir approfondi à mon école les choses de Dieu, éprouvent le désir de les faire connaître aussi à d'autres et s'efforcent de devenir maîtres de vie chrétienne. Mes enfants, soyez désireux d'apprendre mes enseignements. Ne négligez pas l'instruction religieuse qui vous vient par l'intermédiaire de mes ministres, le prêtre, les évêques, les successeurs de Pierre, le pape. Écoutez les leçons que je vous donne directement, car je parle au cœur des hommes, et puis à votre tour, instruisez les autres. Rappelle-toi que les leçons que tu donnes à tes proches ne seront jamais oubliées, même si, à un certain moment de la vie, tes enseignements te paraissent avoir été faillites. Ne crains pas, ils reviendront à la surface plus tard, peut-être à l'âge adulte ou dans la vieillesse, mais ils ne seront pas perdus. La chose la plus importante est qu'il y ait correspondance entre ta manière de parler et ta façon d'agir, que tu aies à enseigner davantage par l'exemple que par ta parole, même si nécessairement tu dois l'employer aussi maintes fois. Permets-moi maintenant de m'adresser à cette catégorie de personnes qui ont choisi comme profession l'enseignement dans les écoles. C'est vraiment une mission, non une profession, qui met l'individu en contact avec l'esprit de l'enfant et de l'adolescent pour parler à sa mémoire et à sa volonté. C'est une mission délicate, précieuse et divine qui reflète la mienne, dit Jésus. Les enseignements reçus sur les bancs de l'école ne s'oublient plus. Le comportement du maître vient faire partie de ces souvenirs qui, jusqu'à l'âge le plus avancé, nous charmeront ou nous attristeront. Oh, si les enseignants se rendaient compte de la délicatesse de leur tâche, avec quel cœur ils la rempliraient. Quelle préparation, non seulement matérielle, mais encore morale et spirituelle, ils y apporteraient. Peu se rendent compte de la grandeur de leur mission, que beaucoup exercent uniquement dans un but lucratif, alors que si elle est bien remplie, elle est l'exercice quotidien d'une œuvre de miséricorde tellement importante et délicate. Écoute, mon ami, prie pour les enseignants, qu'ils soient instituteurs ou professeurs d'université ou d'école supérieure, pour qu'ils se comportent sagement et chrétiennement dans leur enseignement et ne transforment pas leur chair en un lieu de prédication d'où sont enseignées l'erreur et très souvent aussi le péché lui-même. Celui qui aura enseigné ma doctrine resplendira au ciel comme une étoile, et celui qui se sera adonné à l'enseignement, même à celui des sciences profanes, avec amour et dévouement, accumulera de nombreux mérites, parce qu'il transformera sa vie par la pratique continuelle d'une œuvre de miséricorde si précieuse, instruire les ignorants. Reprendre les pécheurs. Écoute, mon ami, mes conseils, dit Jésus, et mets-le en pratique. Je vais te parler de l'application avec laquelle tu dois t'occuper de ceux qui se trompent. Au départ, tu dois décider qu'il te faut, avant tout, essayer de te comporter toi-même selon la loi du Seigneur, puis faire en sorte que la lumière te vienne par la prière. Après quoi, tu peux pratiquer l'œuvre des miséricordes que je t'annonce ici, reprendre les pécheurs. Il est logique que ta vie doit être exemplaire pour que tu puisses reprendre les autres. Mais, étant donné la fragilité humaine à cause de laquelle vous êtes tous pécheurs, tu pourras accomplir cette œuvre si tu mets beaucoup d'humilité et de douceur à la réaliser, et si tu es toi aussi disposé à recevoir des réprimandes lorsque tu te trompes. Rappelle-toi que reprendre ne signifie pas sermonner, ni s'agiter, ni traiter mal, mais avertir doucement, montrer le désagrément, inviter à renoncer à une vie mauvaise pour l'amour de Dieu, et si une affection humaine vous lie, au nom même de cette affection, si un tel motif est plus efficace. Ce n'est pas que le fait d'agir pour des motifs humains ait de la valeur pour le ciel, mais après cela, les pécheurs peuvent trouver le droit chemin et se décider à ne plus pécher par amour et par crainte de Dieu. C'est pourquoi, prends à cœur cette cause qui est mienne. Tu sais que moi, j'aime le pécheur, car je suis venu sur la terre non pas pour les justes, mais pour les pécheurs, et leur salut me tient si fortement à cœur que je serai prêt à renouveler ma passion pour les sauver. Je te suis reconnaissant pour ce que tu fais en leur faveur, et je te confirme ce que disait mon Augustin. celui qui sauve une âme a prédestiné la sienne. Je t'explique aussi le motif de cela. C'est lui qui obtient le salut grâce à la contribution des prières et des conseils d'une personne. Comment pourra-t-il oublier un tel don dans l'autre vie? Là où tout est perfection, le devoir de la reconnaissance et de la gratitude sera pratiqué de manière admirable. Tu peux imaginer avec quel amour et quelle insistance sera imploré le salut de l'âme qui s'est prodigué pour le salut d'une autre âme. Ce que je te recommande, c'est d'agir toujours avec un grand amour de Dieu et du prochain, de ne pas vouloir imposer ta volonté, mais que ce soit le désir de rapprocher les âmes de Dieu qui te fasse agir et parler. Cependant, je te le répète, sois humble en donnant tes avertissements, et si c'est le cas, propose-toi de te corriger toi aussi de tes défauts, afin de ne pas t'entendre dire « Médecin, soigne-toi toi-même ». Agis avec bonté et compréhension, avec confiance et constance, sans jamais penser qu'il n'y a plus rien à faire, car sois bien sûr que lorsque pour toi il n'est plus possible d'agir ni de faire, c'est moi, dit Jésus, qui intervient par ma grâce, et à toi, il ne te reste plus qu'à continuer de prier et d'aimer. Reprenez-vous donc mutuellement, mes enfants, parce que vous êtes tous pécheurs, et aimez-vous intensément au point d'être prêts à sacrifier votre vie les uns pour les autres. Si le salut de ceux qui te sont chers te tient à cœur et qu'il te semble impossible d'arriver à obtenir leur conversion, confie-le à ma maman, la Sainte Vierge. Elle qui est le refuge des pécheurs, te les sauvera. Je te le promets, dans la mesure où tu l'aimeras et la supplieras. Consolez les affligés. Mon ami, écoute, dit Jésus, la leçon que je te donnerai, maintenant continue les brèves réflexions faites sur les œuvres des miséricordes. Je te parlerai en effet de consoler les affligés. Personne au monde n'est exempt de la douleur et de la croix, et chacun désire recevoir réconfort et secours en de tels moments. Moi-même, qui ai été un exemple en tout au cours de ma vie mortelle, dit Jésus, sous le poids de la douleur, m'adressant au Père pour être libéré par lui, si cela avait été possible, je fus réconforté par un ange. Je voudrais que vous fussiez tous dans le monde des anges des consolations, les uns pour les autres. Je voudrais qu'en approchant ceux qui souffrent, chacun de vous sût dire à l'autre les paroles si efficaces, qui ouvre l'horizon et montre que la souffrance n'est pas un but en soi, mais un moyen de salut et une semence de gloire. Que d'âmes n'auraient pas trouvé le droit chemin qu'elles ont, au contraire, découvert dans la douleur, et peut-être justement grâce à cette personne qui a eu la bonté de participer à leur douleur et de pleurer avec ceux qui pleuraient. Ne sois pas égoïste. Ne pense pas que toi aussi, tu as ta part des souffrances et des soucis pour laquelle tu puisses te replier sur toi-même et ne penser qu'à toi. Rappelle-toi qu'à chacun sa propre croix paraît grande et que si tu oublies toi-même pour penser aux autres, la joie et la consolation que tu donnes seront avant tout pour toi. Ouvre bien tes yeux et ton cœur pour voir si autour de toi quelqu'un est anxieux d'entendre ta parole. Sois généreux, mon ami. Fais bien attention cependant que tu dois relever celui qui est peut-être dans le désespoir et non le décourager. Tu devras prononcer les paroles qui ôtent du cœur tout mauvais sentiment contre Dieu et contre les hommes. Tu inviteras à ne pas juger celui qui peut-être a été la cause du mal, mais à l'attribuer uniquement à la bonté de Dieu qui sait tirer le bien du mal lui-même. Si tu le peux, invite à la prière celui qui souffre. La prière vous apporte les réconforts de Dieu. Mais si tu te rends compte que tes paroles sont vaines, promets que tu aideras la personne qui souffre en priant toi-même pour elle. Puis fais-le réellement, car le secours que tu peux donner est toujours insignifiant s'il n'est pas fortifié par l'aide de Dieu. Dans cette œuvre qui te transforme en ange de consolation et recours à la consolatrice des affligés, Marie, Sainte Vierge, pour qu'elle en soit ton guide, ta maîtresse, et qu'elle te remplace dans cette œuvre de charité si précieuse. Aider moralement quelqu'un qui souffre est parfois beaucoup plus précieux que de donner des millions, et quelquefois, une seule parole suffit à détourner une personne d'un mal irréparable auquel peut la conduire le désespoir. Qu'après avoir entendu l'épilogue d'une tragédie, on n'a jamais à se dire « Si j'avais cherché à consoler cette personne aigrie qui passait à côté de moi, peut-être n'aurait-elle pas fini ainsi. » Fais aux autres ce que tu voudrais que l'on te fît à toi. Agissez ainsi, car tous, à un moment de votre existence, vous devez lancer votre SOS en implorant l'aide de quelqu'un, et si vous vous prodiguez pour les autres, ceux-ci se prodigueront pour vous. Cependant, au cas où les hommes resteraient sourds à votre appel, Dieu l'accueillerait pour vous réconforter et en son temps pour vous récompenser. Pardonnez les offenses. Mon ami, dit Jésus, te voici à notre rencontre habituelle pour la leçon sur les œuvres de miséricorde. Je te parlerai de ceci. Pardonnez les offenses. C'est l'une des choses les plus importantes que l'on puisse faire, qui n'est pas facultative mais obligatoire, non pas réservée à quelques personnes mais à tout le monde. Je t'assure que c'est une chose très importante. Où tu pardonnes et l'on t'ouvre la porte du salut, où tu ne pardonnes pas et tu es irrémédiablement perdu, car le Père éternel ne te pardonnera pas tes fautes. C'est donc une œuvre de miséricorde que tout le monde doit pratiquer avec un grand amour, un grand rappel. Ce que dit déjà, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Bien plus, si tu viens à l'autel pour faire ton offrande, et si tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens offrir tes dons à Dieu. Je te fais remarquer que l'initiative du pardon doit venir de toi, même si d'autres te gardaient rancune. Dieu voit tout et agrée cette générosité et cette humilité. N'agis donc jamais de façon pointilleuse en disant que ce n'est pas à toi de le faire, que c'est toi l'offensé, etc. L'important c'est de ramener l'harmonie et la sérénité là où il y a discorde et d'établir l'amour là où il y a la haine. Que de familles en lutte parce que l'on ne pratique pas cette œuvre merveilleuse de miséricorde qui renferme en elle tant de vertus, l'humilité, la charité et surtout la bonté qui te rend semblable au Père éternel, lequel pardonne toujours. Quand j'ai institué le sacrement de pénitence, dit Jésus, j'ai dit à mes ministres, allez et pardonnez. Les apôtres me demandèrent, combien de fois devons-nous pardonner? Et je répondis, 70 fois 7 fois, c'est-à-dire toujours. Si donc tous les hommes doivent être pardonnés par Dieu toujours, eux aussi doivent pardonner toujours à leurs semblables, ceci étant une condition indispensable pour être pardonné. Je t'en prie, mon ami, si tu ne veux pas rendre inutile et peut-être pécamineuse ou sacrilège ta confession et tes communions, pardonne de tout cœur à tout le monde, au point d'oublier les offenses, quel que soit leur genre. Cette condition de ton pardon, liée au pardon que tu donnes aux autres, doit être pour toi un grand réconfort en cette vie, une grande certitude dans l'espérance de la vie future et une grande paix. Et cela ne vaut-il pas la peine de renoncer à l'amour propre, pourvu que l'on possède de tels dons? Pardonne toujours, mon ami, au point d'oublier, si tu le peux, l'offense reçue, comme je le fais moi-même. Quand je pardonne, j'oublie. Pardonne jusqu'à prier pour celui qui t'a offensé, comme je le fais encore moi-même. Je vais comblant des dons mes créatures qui continuellement se déchaînent contre moi. Rappelle-toi que le semeur de haine et le malin ne permet pas qu'il l'emporte sur toi. Même si tu avais toutes les raisons pour protester contre les comportements de tes semblables, tu m'imiteras, moi, qui du haut de la croix disais, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tu pourras invoquer les mêmes circonstances atténuantes pour tes offenseurs. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils font le mal sans le vouloir. Ils croient bien faire. qu'elles sont bonnes, ces paroles, et dignes de récompense. Chaque martyr les a prononcées après moi, depuis Étienne jusqu'au martyr de votre temps, et c'est l'invitation que ma sainte maman et moi-même nous répétons sans cesse aux hommes qui veulent être nos disciples. Aimez-vous, pardonnez-vous, aidez-vous mutuellement, car c'est la volonté des dieux. Je te fais maintenant une recommandation, mon ami. Tâche de mettre toujours et partout la paix et l'harmonie, et même s'il t'arrive de rencontrer l'occasion de régler des différends, fais-le avec une grande bonté et une grande charité, et tu me feras très plaisir. Imite l'exemple des saints qui, défiant les dangers extérieurs et triomphant avec les secours des dieux de leur propre faiblesse, ont su ramener la paix entre les hommes qu'ils approchaient. La paix est un don des dieux que l'on gagne par la bonté, bonne volonté. Quelle monnaie plus précieuse que celle-ci voudrais-tu l'employer pour acquérir un bien si grand et si indispensable à la vie? Que la paix, ma paix, soit toujours avec vous et au milieu de vous. Supportez patiemment les personnes ennuyeuses. Mon ami, dit Jésus, je continuerai mes leçons en te parlant de l'œuvre de miséricorde que beaucoup font pratiquer à autrui et se refusent à pratiquer eux-mêmes. Supportez les personnes ennuyeuses. N'oublie pas que vous êtes tous imparfaits et que les imperfections se manifestent dans votre vie par votre manière de parler, de vous comporter, de voir les choses, d'exposer vos opinions. Ce qui est imparfait déplaît non seulement à Dieu, perfection infinie, mais encore aux hommes qui, tout en ne possédant pas la perfection, la désirent chez les autres. Si vous étiez tous parfaits, il vous serait facile de vivre ensemble, comme il sera agréable de vivre au paradis où rien n'entre qui ne soit parfait. Tant que vous vivrez sur cette terre, il y aura pour vous ce genre de croix. Supportez un caractère différent du tien. Acceptez le heurt inévitable avec celui qui pense autrement que toi. Acceptez d'avoir le cœur en larmes et de devoir rire avec celui qui est heureux, voir péricliter tes affaires et devoir te réjouir du bonheur de celui qui raconte des fabuleuses réussites. Tout n'est pas heurts et ennuis qui rendraient l'existence insupportable sans intervention de cette œuvre bénie des miséricordes dont je t'ai parlé, qui, basée sur la charité, te facilite les supports des autres. Je t'ai dit qu'elle a pour base la charité, mais elle est composée aussi de patience, d'humilité, d'obéissance et nécessairement de compréhension, de générosité et d'une bonté sans limite. Si, en effet, tu mets ensemble toutes ces qualités et ces vertus, tu constates que les personnes ennuyeuses disparaissent et auprès de toi tu trouves des personnes très aimables avec lesquelles tu éprouves beaucoup de plaisir à parler et à vivre. Rappelle-toi que tu as beau t'efforcer de supprimer tes défauts, il t'en restera toujours quelques-uns qui te rendront peu agréables aux autres. Pense souvent à cela, pour qu'à ton tour tu puisses excuser les imperfections ou les vrais défauts de ton prochain et non seulement les supporter, mais l'aimer tel qu'il est, avec son caractère, sa personnalité et ses déficiences. Tout cela, fais-le toujours par amour pour Dieu, car si le Père du ciel désire que vous vous aimiez mutuellement, si vous vous aimez, si vous vous excusez et vous supportez par amour pour lui, vous donnez une valeur divine à une action humaine et de ce fait, vous la rendez digne d'une récompense éternelle. Imite mon exemple, mon ami, dit Jésus, car bien qu'étant Dieu et possédant toutes les vertus et les capacités à un degré infini, je me suis adapté à tout le monde, supportant l'avarice et la trahison de Judas, l'infidélité et le respect humain de Pierre, l'hypocrisie des pharisiens, l'orgueil, la malice, la méchanceté, l'ingratitude de tout un peuple qui pendant 3 ans m'avait suivi. Il avait vu mes miracles, il avait touché de la main ma puissance, ma sagesse et ma miséricordieuse bonté sans en rien comprendre. Fais-toi tout à tous pour les gagner tous à Dieu. Telle est ta mission et celle de tout vrai chrétien. Priez Dieu pour les vivants et pour les morts. Mon ami, dit Jésus, me voici pour compléter les leçons sur les œuvres de bonté et de miséricorde que tu peux et dois accomplir afin de mettre en pratique la charité, vertu reine.